feel good. I knew that I would not. So good, so good, I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour aller à la rencontre d'une femme, Fanny Pronneau cette fois-ci, qui va nous raconter un petit peu son arrivée en Lorraine, son arrivée dans le monde du handicap et son travail, mais aussi ce qu'il habite, pourquoi elle a fait ce choix-là. Je vous l'ai dit, c'est Fanny Pronneau, mon invité, la directrice générale du CAPS 51 et 54.
So good, so good.
Bonjour Fanny.
Bonjour.
Un gros établissement, le CAPS.
Oui. Un gros établissement.
Clé, c'est 650 agents pour 1200 personnes accompagnées.
Oui, c'est ça. 1200 places, 650 agents de la fonction publique hospitalière. On est un établissement public. C'est important de le dire parce que c'est le seul établissement qui œuvre dans le champ du handicap adulte en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle, et qui a ce statut d'établissement public. Donc j'y tiens parce que voilà, moi je suis fonctionnaire et c'est une voie que j'ai choisie depuis le départ.
Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas seul, il y a d'autres établissements connus type...
Oui, bien sûr, on a des collègues dans l'associatif qui sont bien connus, l'AEIM, l'OHS, JB Thierry, la LAG, bref, on a multiples partenaires qui ont d'autres statuts que le nôtre et qui font le même travail, hein. C'est juste une histoire de statut, de convention collective.
Et alors, pourquoi vous tenez alors, Fanny, à la spécificité de la fonction publique ?
Moi, j'aime bien incarner ce service public parce que un établissement public, ça porte certaines valeurs importantes à mes yeux que j'ai apprises pendant mes études. Et entre autres, on a une valeur d'accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'on accueille le public qui le souhaite, qui en a besoin, qui le nécessite, sans condition. Donc ça, c'est une valeur importante d'un établissement public que j'ai retrouvée dans mes différents champs d'intervention précédents, que ce soit auprès de personnes âgées en EHPAD, où on accueillait des personnes qui peuvent être sans ressources, par exemple, hein, mais qu'on accueillait quand même en EHPAD, évidemment, avec l'aide sociale du département qui venait pallier cette difficulté. Au REM aussi, où j'ai pu travailler précédemment. Le REM, c'est le réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, qui est l'établissement départemental qui permet d'accueillir des personnes, des enfants qui sont placés en protection de l'enfance par l'aide sociale à l'enfance, hein, de 0 à 18 ans. Et donc, là aussi, c'est un accueil dit inconditionnel. On accueille en urgence, de jour comme de nuit, toute situation qui le nécessite. Et donc, voilà, on est un petit peu une sorte de filet de sécurité de la société, quelque part. Et donc là, moi, je suis très fière de pouvoir participer à ce filet de sécurité, en être quelque part, un petit rempart de la République, si on veut, ou une solidarité qu'on exprime par ces établissements qui font ce travail-là de secourir les plus vulnérables. Parce que moi, je suis un peu spécialisée dans les populations, si on veut, dans le travail auprès des populations vulnérables.
Alors, cette fonction, vous l'évoquiez, elle est assurée par un réseau privé ou plutôt associatif, en l'occurrence, et en même temps une fonction publique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette fonction un petit peu de veilleur en interne auprès des services publics, alors que ce soit de l'État ou des collectivités territoriales? Voilà aussi un autre reflet de la réalité, ce qui permet de... sonnette d'alarme ou d'attirer l'attention.
Oui,
de,
tout à fait.
Alors, de ne pas avoir que des technos qui gèrent des dossiers administratifs.
Oui, tout à fait. Nous, on est dans l'incarnation, dans l'application concrète de la politique publique qui est donc effectivement développée par nos autorités de tarification, hein, qui nous indiquent, ou les lois ou les règlements qui nous indiquent comment travailler. Et nous, on incarne ça de manière tout à fait concrète au quotidien. Moi, c'est ce qui me plaît dans le métier, c'est que c'est hyper concret. On accueille réellement des gens, des personnes en chair et en os, tous les jours.
Des vrais gens,
gens qui vivent dans ces établissements, et on doit leur garantir un niveau de qualité de service. Et on peut en discuter après en tout état de cause et en connaissance de cause avec nos autorités de tarification, par exemple, ou avec des élus, hein, qui les élus sont aussi membres des conseils d'administration de ces établissements. Et donc, on est une sorte d'incarnation, en fait, hein, de cette politique publique.
Parce que c'est, par exemple, votre présidente, c'est une élue du conseil départemental.
Tout à fait. Ouais. La vice-présidente du conseil la vice-présidente du conseil départemental est la présidente du conseil d'administration du CAPS, par exemple.
Et on la salue.
Et on la salue.
Du coup, vous avez aussi une présence un peu spécifique en Meurthe-et-Moselle, puisque vous n'êtes pas d'abord et avant tout sur les grands centres urbains, en l'occurrence sur Nancy principalement. Oui. Quoi. Vous avez plutôt une présence en milieu périurbain et rural.
Oui, voilà, ça a été une vocation du CAPS hein, et des directeurs précédents d'avoir cette volonté de rayonner un peu sur les différents territoires, de proposer sur chacun des bassins de vie du territoire de Meurthe-et-Moselle une offre d'accueil de public en situation de handicap. Ce qui fait qu'on a effectivement toute une série de services. On a 18 sites géographiques différents, 35 services différents au sein du CAPS. Et sur ces 18 sites géographiques, un certain nombre sont situés dans des zones assez reculées du département. Et donc, ça permet à des personnes, bien qu'ayant un handicap, d'être accueillies dans un bassin de vie proche de leur habitat d'origine, par exemple. Hein, donc ça, c'est une volonté aussi qui a été portée beaucoup par Michel Dinet à l'époque et qui a été suivie, entre autres, par le CAPS.
Alors, l'ancrage 51 et 54, beaucoup 54 et un petit peu 51, il s'explique par l'histoire. Et est-ce qu'il rejoint d'autres histoires sur d'autres territoires nationaux ?
Alors, c'est souvent, les établissements qui sont assez gros comme ça ont vocation parfois à absorber ou à travailler en collaboration avec d'autres établissements. Il se trouve que sur le 51, il y avait un établissement qui était en difficulté et il y a quelques années, le CAPS a été appelé ou s'est proposé. Enfin, en gros, voilà, on a choisi que le CAPS s'occupe de cet établissement,
de la Marne,
et donc a fusionné avec cet établissement. Ce qui fait qu'on a 4 services aujourd'hui qui sont à Châlons-en-Champagne, dont nos seuls établissements enfance, hein, un IME et un CESAD, qui sont dans la Marne. Donc voilà, c'est un petit peu historique, mais on a cette antenne dans la Marne.
Et alors, des CAPS avec cette structure de service public, on en retrouve d'autres en France ?
Oui, oui, oui. On est quasiment dans chaque département. Il y a des établissements publics de toute façon. Oui. Spécialisés handicap, je ne connais pas le nombre exact, mais des gros établissements comme les nôtres, il y en a quelques-uns. Je ne dirais pas qu'il y en ait beaucoup vraiment, mais il y en a dans le Nord, il y en a en Bretagne, il y en a dans le Sud également. Je ne pourrais pas dire un nombre, mais peut-être une dizaine, une quinzaine d'établissements comme le nôtre. Après, nous, on est assez important. On a, avec le nombre de services qu'on a, on a un spectre, disons, d'intervention qui va des ESAT, hein, donc des centres d'aide par le travail, autrefois appelés CAT, effectivement, donc les ESAT, jusqu'aux MAS, maisons d'accueil spécialisées, en passant par les foyers d'accueil spécialisés.
Prenons le temps, justement. Balayons le spectre des publics accueillis, justement. Alors, on a des travailleurs handicapés.
On est
plutôt en autonomie.
Des personnes qui vont être aidées hein, dans un milieu protégé pour travailler tout en étant atteint de difficultés, que ce soit de déficience mentale éventuellement, de handicap psychique, qui leur permettent de travailler, mais avec une aide de moniteurs. On propose dans ce cadre-là 8 ESAT différents, avec des métiers, il y a 14 métiers possibles. Donc
on
c'est
en cite 2-3, éventuellement, alors, les plus grands publics, ceux alors, auxquels voilà, on peut les, faire avoir recours alors, quand on est auditeur de RCN.
Celui qu'on met en avant assez régulièrement, c'est le Château de Brabois, qui est un nouvel ESAT assez connu désormais, qui permet à 30 travailleurs en situation de handicap d'œuvrer auprès d'un public, on va dire, tout à fait lambda, classique, voire exigeant, comme on peut l'être quand on vient au château, c'est-à-dire pour manger des repas semi-gastronomiques, bénéficier d'un hôtel, de salles de séminaire. Et donc, tous les professionnels qui sont auprès de ce public exigeant, bah, ce sont des travailleurs en situation de handicap. Donc, ça dit bien ce niveau d'exigence.
Lieu de réunion, salle de séminaire, et puis un très bon restaurant,
un hôtel, une brasserie
voilà. Aussi, très donc, sympa.
Voilà. Donc, on a de quoi, effectivement, proposer un autre regard sur le handicap en étant auprès... de professionnels qui vont développer un savoir-faire qui, par ailleurs, va être peut-être aussi transférable, parce qu'on est sur des métiers en tension, hein, la cuisine, la restauration.
Donc ça veut dire que ce public qui travaille là peut aller en milieu ordinaire.
Tout à fait, c'est le but. Alors c'est le but aujourd'hui de la loi de transformation des ESAT, qui nous incite largement à faire en sorte que les ESAT aillent vers le milieu ordinaire, permettent à des tremplins pour que des personnes apprennent des métiers et ensuite se fassent embaucher dans des entreprises classiques.
Qu'on se donne une idée, vous évoquiez 1200 personnes accueillies, environ 1200 places, voilà. Alors je ne sais pas, places et personnes, c'est la même chose ou
non, c'est pas tout à fait la même chose, mais en l'occurrence, pour les travailleurs en ESAT, on a 282 travailleurs en ESAT, voilà.
Alors ça, c'est pour les ESAT, cet établissement à peu près, sur le territoire. Ensuite, on a des publics qui sont peut-être encore plus en capacité d'autonomie, par exemple.
Alors, plus en capacité d'autonomie, non. On est plutôt en moins d'autonomie. Alors, moins d'autonomie, c'est les foyers de vie. Donc, foyers d'accueil spécialisés, ils s'appellent chez nous, mais ça peut prendre différents noms. Mais en l'occurrence, pour nous, c'est des foyers d'accueil spécialisés. Dans ces foyers, les personnes vont vivre toute une partie de leur vie. Hein, donc, c'est vraiment un lieu de vie. Au long cours et n'ont pas de capacité suffisante pour pouvoir travailler. Donc, on leur propose pour autant un accompagnement par des ateliers. On appelle ça partir en atelier. Donc, dans la journée, ils bénéficient d'un accompagnement au sport, à l'art, par la pratique artistique, par la pratique culturelle, par la rencontre. La découverte de la ville, de ce que peut proposer le milieu ordinaire, mais aussi le maintien des acquis, maintien des acquis scolaires, etc. Donc on a toute une partie comme ça, activité qui permettent aux personnes de s'épanouir au quotidien, parce que ce sont des personnes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent pas travailler. Donc elles vont vivre comme ça en internat par ailleurs, dans des structures qui les accueillent, dans des foyers, c'est des appartements dans lesquels ils sont 10 à vivre en collectivité quelque part. Et donc il y a aussi tout cet apprentissage de la socialisation et de la vie en collectivité.
Donc ces foyers d'accueil, on les retrouve où alors?
Alors on en trouve à Rosières-Rossalines, là où il y a le siège du CAPS, mais aussi sur Lunéville, sur Badonvillers, sur Montbonvillers. Voilà, il y a de nombreux FAS, il y en a à Thiocourt également, un FAS qui a 36 places, puis un autre de 15 places. Donc vraiment, il y a des FAS, on a en tout 296 places de FAS, donc là aussi, c'est quand même beaucoup de gens.
Alors, entre 200 et 300 à chaque fois, là.
Oui, voilà, pour l'instant, c'est ça. Voilà. Ouais.
Et puis alors, on arrive à des personnes plus lourdement handicapées.
Voilà, on a une structure.
Alors ça veut dire quoi, plus lourdement?
Plus lourdement, ça veut dire qu'il va y avoir besoin de soins et en gros de personnel soignant. Hein, c'est ce qui fait un peu la différence. Il y a des personnels soignants qui vont parfois intervenir même pour des actes de la vie quotidienne, la toilette, les repas. Donc là, on est sur une prise en charge qui peut s'apparenter à ce qu'on peut trouver parfois en EHPAD et avec des personnes qui ont des capacités très limitées.
Donc ça peut être physique ou cognitive,
oui,
les deux.
C'est souvent les deux, voilà. Et en l'occurrence, on a des structures qui accueillent des personnes qui sont dites en situation de polyhandicap, donc qui sont nées avec des handicaps très lourds ou qui les ont malheureusement acquis, et deux structures qui accueillent des personnes qui sont traumatisées crâniennes, donc des personnes qui ont subi un accident de la vie, donc un AVC, un accident de la route, un accident de travail, et qui leur a laissé des séquelles telles qu'elles sont, elles vivent dans nos établissements.
Et là, ces personnes, ça représente combien?
Alors, pour les deux structures qu'on a, ce qu'on appelle les masses TC, donc traumatisés crâniens, on a une masse de 15 places à Châlons et une masse de 20 places à Rosières. Donc ça fait 35. Après, pour les polyhandicapés, on a deux masses de 40 places chacune, donc 80 places. Voilà.
On arrive dans un milieu où, quand on ne le connaît pas, on ne s'imagine pas. On s'imagine difficilement.
Oui, et c'est un milieu plein de vie, malgré cette apparence, peut-être un peu difficile, parce que l'étrangeté fait peur, mais c'est un milieu drôle, plein de vie, plein de spontanéité, hyper attachant. Moi, j'ai découvert un univers, et ça, c'est vraiment chouette.
Inspiré par la musique aussi, vous nous faites une invitation, je vous propose de la découvrir et on débrief après.
Thank you. Jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de umbigo, cuidado por te quebrar. Menina pequenininha, tonta de tanto chorar. Que choro uma lagoa e ela que eu vou me baiar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. Jogo da amarelinha e a vida quer durar. Tem um diamante de umbigo, cuidado pra te quebrar. Menininha pequenininha, tonta de tanto chorar. Teu choro uma lagoa e ela que eu vou me banhar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds. La 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 la.
Les oiseaux sur le fil, la chanson c'était La Marelle. On débriefe tout de suite avec Fanny Pronon, mon invité.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Alors ceux qui écoutent à la radio, ils auront eu la chanson, ceux qui l'écoutent sur les réseaux sociaux et ne l'auront pas. Donc pourquoi ce choix musical qui, tout en infantile et tout ça, il y a une petite mélancolie,
tout
il y a
fait.
Une petite oui. Interpellation, on va dire. Quoi.
Oui, oui, oui.
C'est pas si...
Oui, c'est oui, c'est, non, si... non, c'est un petit peu nostalgique, certainement. Hein? Ouais. Non, moi c'est un groupe déjà que j'adore, Birds on a Wire, c'est un duo avec Rosemary Stanley et Dom LaNena. C'est une violoncelliste, Dom LaNena, et puis Rosemary Stanley, c'est une chanteuse dont j'adore la voix, qui a fait beaucoup de reprises. Et là, c'est une reprise d'une chanson qui est chantée à la fois en brésilien et puis en français, qui effectivement, et ben c'est sur une espèce de comptine comme ça, très connue, avec un thème universel d'un jeu, mais avec un peu effectivement un fond symbolique. Voilà, on retourne. Il y a une histoire de chance, de puits, de marelle. Enfin bref, voilà, le jeu un peu symbolique, mais c'est plus la ritournelle qui me plaisait, et puis quelque chose que plaisant à écouter, à reprendre, à chanter en chœur avec mes enfants, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien.
Alors, on arrivait à un point un peu sensible de l'interview, c'est-à-dire que c'est un beau métier, c'est une belle vocation. En même temps, elle est éprouvante, et on l'a vu avec le Covid ou tout ça. On a des professionnels de santé dont on a vu l'importance justement de soins notamment. En même temps, c'est une difficulté psychologique, c'est une difficulté, c'est une charge mentale, on va dire, forte. Comment on fait ce choix? Comment on trouve un équilibre dans tout ça, Fanny?
Alors, l'équilibre, il est effectivement pas si facile à trouver, je trouve, au quotidien, finalement. Mais ce qui fait que c'est solide et que je fais ce métier depuis, finalement, maintenant, plus de 20 ans, Je crois que c'est parce que ça a beaucoup de sens. Ça a un sens évident. Et en fait, on n'a pas à le chercher tellement, le sens du travail qu'on fait. Que ce soit voilà, en EHPAD auprès de personnes âgées, auprès d'enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, ou là, en l'occurrence, avec des personnes en situation de handicap. Le sens du travail qu'on réalise au quotidien d'aider une personne qui est en position de vulnérabilité, il est tellement important et évident et gratifiant. Parce qu'on se rend utile en fait, hein. L'utilité fait passer beaucoup de choses. Et puis derrière la difficulté, l'abord de la personne qui peut être difficile, l'éventuel même rejet qu'il peut y avoir de l'étrangeté de l'autre, derrière tout ça, quand on connaît les gens, ça me l'avait beaucoup fait en EHPAD, une fois qu'on connaît les personnes derrière leur apparence physique, ça devient tout simplement des êtres humains très attachants, et au final c'est un métier très très humain, donc je pense que les professionnels qui le font au CAPS sont aussi attachés à cela, à cette relation humaine tout simplement qui se crée au-delà du handicap. Voilà.
Au-delà du handicap, ce regard sur le handicap, est-ce qu'il évolue dans la société, comment vous le sentez avec ces 20 ans d'expérience professionnelle?
En l'occurrence, le handicap, moi, je le découvre pour ma part depuis seulement 2 ans, puisque précédemment, j'étais auprès d'autres publics. Je ne sais pas s'il évolue depuis longtemps ou pas, mais ce que je reperçois là, de manière très récente, c'est quand même un frémissement important sur cette notion de handicap. La visibilité du handicap est bien plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était encore il y a peut-être 2 ans, je trouve. Il y a des petites séries qui mettent en scène des personnes en situation de handicap. Les Jeux paralympiques ont beaucoup fait pour la notoriété de personnes qui sont en situation de handicap et que ça n'empêche pas d'être devenues des stars.
On s'est enthousiasmé.
On s'est enthousiasmé pour ça, je trouve que bon, au-delà du symbole, c'est important. L'école inclut de plus en plus d'enfants qui sont en situation de handicap, et donc pour les enfants, ça devient une normalité. Et c'est des choses que moi j'avais pu repérer dans d'autres pays précédemment, mais en l'occurrence au Brésil, où la politique était d'inclure complètement les personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire de manière beaucoup plus large que ce qu'on peut faire nous, et où le handicap n'était pas une étrangeté, mais quelque chose d'ordinaire.
On rentre dans la vie un peu plus perso, puis dans valeurs. J'ai entendu, il y a eu un petit séjour au Brésil alors, du coup.
Oui, alors le séjour au Brésil, il était avec mon école de la santé publique. On avait réussi à se faire sponsoriser ce super
sympa
séjour, voilà, pour étudier justement le parallélisme des formes, c'est-à-dire comment l'école de la santé publique de Rio travaillait auprès de ses publics, et donc on a été assez édifiés de leur façon de travailler qui était assez différente des nôtres, et pour beaucoup de choses ils étaient largement en avance, en l'occurrence
plus
pour le handicap.
En
tout cas pour le handicap, oui, c'est clair.
Alors un parcours pas que de le handicap justement, on va le remonter le temps avec janvier 2003, une date importante, c'est l'arrivée en établissement après une formation, donc on l'a compris, c'est à l'école de santé publique de Rennes. On arrive dans le 9-1, c'est pas le 9-3, à Palaiseau, dans un EHPAD.
Voilà. Oui, première
toute
prise
jeune,
de fonction.
Hein,
Oui, j'étais un petit peu peut-être la plus jeune de l'EHPAD. Hein. Ça, c'est pas difficile avec les usagers, mais avec les professionnels, oui, il a fallu effectivement faire un peu ses marques au départ. Mais ça s'est très bien passé. C'était un EHPAD de 80 lits. J'ai trouvé ça passionnant. Bon, un petit peu au four et au moulin, sur 80 lits, on est une petite équipe administrative très courte.
Voilà. Ça, 80 lits, c'est bien, c'est pas un gros établissement, mais on fait tout.
C'est ça, un peu baptême du feu à tous les sens du terme, parce que c'est une année où donc j'ai pris mes fonctions, mais c'était aussi l'année de la canicule. Première année de 2003, dont tout le monde se souvient, parce qu'à l'époque, on n'y était pas du tout habitué. Et puis c'était, j'ai aussi subi un incendie cette année-là, l'été 2003, là aussi, dans l'EHPAD, dont
Lorraine, en Alsace, les catastrophes que ça représente,
c'est
l'incendie
ça,
dans
c'est
ces
ça,
établissements-là.
Tout à fait. Donc là, on s'en est bien sorti, mais ça m'a marqué durablement, c'est sûr. Mais c'était, oui, tout à fait intéressant comme expérience auprès de personnes âgées, qui étonnamment, la vocation m'est venue parce que j'ai fait un petit boulot d'ASHQ, comme on dit, d'agent de service hospitalier qualifié. Donc, c'est des personnes qui font le ménage, servent en salle les personnes âgées. J'ai fait ça l'été pour gagner ma vie en tant qu'étudiante. Et le milieu m'a bien intéressée au point que je me suis dit que c'était ce que je voulais faire.
J'entendais dans votre expression, l'incendie ça avait marqué, je pense à nos amis de l'AEIM, de Witzenheim, ça a été aussi un choc traumatisant face à l'impuissance et à la mort confrontée. Comment on réagit en professionnel?
Alors, les établissements, quels qu'ils soient, on accueille du public et en fait, tout ce qu'on fait au quotidien en tant que directeur, en tant qu'équipe qui accompagne, c'est que de la gestion de risque. Donc, on doit se préparer à ça. Donc, il y a énormément de risques à prendre en considération. Et après, il y a des risques qui doivent être confrontés à ce qu'on laisse aussi comme liberté aux personnes. Hein, donc c'est toujours une espèce de tension entre la liberté et la sécurité qu'il faut mettre en parallèle. Et donc notre gestion, nous en tant que directeur, c'est de le mettre le bon curseur avec assez de sécurité, mais aussi la liberté d'aller et venir, la liberté des personnes de vivre correctement dans leur logement qu'on est censé sécuriser. Et c'est un vrai défi.
Dans les dates importantes, il y a la date de maman.
Oui. Alors
deux dates, pour le coup.
Deux dates, voilà, parce que j'ai deux enfants. Donc effectivement, les dates d'anniversaire, de naissance de mes enfants sont pour moi des dates hyper importantes.
Pourquoi voilà. Ça change quoi alors la date
parce qu'il
y avait déjà
tout.
L'expérience professionnelle déjà.
L'expérience professionnelle. Il
n'y a pas la peur quand on est dans des milieux où on croise, y compris des enfants.
Surtout que j'étais à ce moment-là donc en protection de l'enfance justement. Donc le fait de devenir maman, oui, ça change le regard certainement. On devient vulnérable forcément ou en tout cas préoccupé par d'autres éléments qui deviennent principaux, qui sont la petite enfance, l'enfant à qui on donne naissance. Donc oui, pour moi, ça a été des moments, mais plus qu'importants, enfin je dirais déterminants dans ma vie d'avoir mes deux enfants, ça c'est vrai.
Allez, on les embrasse, 8 et 11 ans, un gros bisou, plein de joie, merci de nous partager un petit peu votre maman. Et puis, troisième date, l'année de l'émancipation, si j'ose dire.
Oui.
Été 94, c'est le bac, le permis, et puis c'est un concours d'éloquence.
Oui.
Madame Prono, un peu discrète et réservée,
oui, non,
participe
mais pas du tout.
Alors, mais je me trompe.
Non. En fait, si, j'étais un peu poussée par un prof pour pas, peut-être justement parce que j'avais ce caractère préservé, je sais pas, mais en tout cas, il m'a poussée à passer ce concours d'éloquence, qui était un concours donc oral, où on doit disserter.
Le sujet.
Et le sujet était c'est n'être bon à rien de n'être bon qu'à soi. Et c'était une citation de Voltaire qu'il fallait commenter. Et donc, autrement dit, voilà, c'était toute une belle parabole sur la générosité, sur le fait qu'on s'épanouit que si on essaye de faire le bien autour de soi ou d'être comme ça utile. Et donc, c'est vrai que, en fait, ça m'a beaucoup inspirée finalement, et que j'ai réussi à convaincre le jury. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé pas ça si anodin que ça, parce que ça me parlait finalement au fond de moi. C'est ce que c'est pour ça que j'ai noté cette date, parce que finalement derrière, c'est pas une vocation. Moi. Disons que j'ai pris cette voie-là quand j'étais en IEP. Au départ, je me destinais plutôt comme ça dans l'idée à être journaliste. Et puis finalement, au contact de ces études-là et de cette fameuse maison de retraite dans laquelle j'ai œuvré l'été, je me suis dit, en fait, j'ai envie de réaliser les choses en vrai, pas forcément de les commenter, mais d'essayer de changer les choses depuis là où on peut le faire.
Donc le déclic, c'est pas une vocation, vous avez tout de suite balayé un petit peu le terme.
Oui, c'est pas une vocation, faut pas exagérer.
Mais il y a eu une rencontre.
Oui, voilà, un travail qui donne du sens, quelque chose qui me plaît, ça ne s'est pas démenti depuis 20 ans, donc je pense que j'ai trouvé une voie qui m'intéresse, qui n'est pas la plus facile quand même, je dois le dire, mais qui est fort intéressante.
Les perspectives de l'inclusion, les perspectives du handicap. Parce qu'on voit bien que trop d'inclusion, ça peut être aussi un petit peu remise en question. Donc on est en train un peu de réguler tout ça. Aujourd'hui, vous voyez ça comment?
C'est ça, c'est trouver sa place pour chacun. Moi, je pense que c'est vraiment, il y a de la place pour tout le monde, mais suivant des modalités différentes. Et on peut faire de l'inclusion, mais aussi travailler pour le bien-être des personnes en les protégeant aussi quand il y a besoin. Donc, il faut de tout et il faut surtout changer le regard des personnes et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Oui.
Merci d'être venu justement pour nous aider à changer notre regard. Belle continuation à vous et à toutes les équipes.
Merci beaucoup.